On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info. À Montréal-Nord avec Logan Sdort, champion de la NBA. Un texte de Frédéric Sauvé, paru le 22 août 2025 dans les As de l'Info. Jeudi 21 août, le joueur de basketball montréalais Logan Sdort était de passage dans son quartier natal de Montréal-Nord. Le champion de la NBA et membre du Thunder d'Oklahoma City s'est présenté au parc Pilon avec le prestigieux trophée de champion. J'étais à la fête, je t'explique tout. Une grande célébration. L'ambiance était à la fête au parc Pilon. Entre 10h et 15h, on pouvait voir défiler de nombreux chandails bleus et oranges aux couleurs du Thunder, l'équipe de Logan Sdort. Sur place, plusieurs activités tournaient autour du basketball. Il y avait aussi de la nourriture gratuite, une murale représentant Dort en action et même un salon de barbier offrant des coupes gratuites. Sans oublier la présence des mascottes Youpi, Rumble de Thunder et Nordy de Montréal-Nord. Au total, environ 2000 personnes s'étaient rassemblées pour accueillir le champion local. Dans la foule, on apercevait des pancartes où l'on pouvait lire « Bienvenue à la maison, Lou » ou encore « Montréal-Nord, fier de son champion ». On sentait vraiment le lien fort qui unit le joueur à son quartier et à ses partisans. Un seul mot. Fierté. Chez toutes les personnes que j'ai rencontrées sur place, un mot revenait constamment. Fierté. Ce genre d'événement, ça rassemble et ça nous rend fiers d'où on vient, m'a confié Christopher, un amateur de basketball. Ce sentiment de communauté et d'appartenance, c'est propre à Montréal-Nord, a-t-il ajouté. Devant la foule, Logan Sdort a pris la parole. Merci beaucoup. C'est vraiment difficile d'arriver à gagner un championnat de la NBA, mais le soutien de Montréal-Nord, je le ressens chaque jour. C'est une grande fierté. À un moment, j'entends un garçon d'environ 8 ans s'exclamer « J'ai ma signature, j'ai vu Lou Dort ». C'est exactement pour ce genre de moment que j'aime le sport. Et toi? Quel athlète aimerais-tu rencontrer? Pourquoi des équipes sportives changent-elles de nom? Un texte de Frédéric Sauvé, paru le 27 août 2025 dans les As de l'Info. Il arrive que des équipes sportives changent de nom au cours de leur histoire. C'est parfois parce que le nom n'est plus acceptable de nos jours, ou à cause d'un déménagement, ou simplement pour se réinventer. Mais certains aimeraient revenir en arrière. C'est le cas du président américain Donald Trump, qui souhaite que l'équipe de football de Washington reprenne son ancien nom. Je t'explique tout. Donald Trump et les Commanders de Washington. De 1937 à 2019, l'équipe de football de Washington portait le nom de Redskins, ce qui signifie « peau rouge » en anglais. C'est un terme dégradant pour les Autochtones. En 2020, à la suite du meurtre de George Floyd, une grande réflexion sur le racisme a eu lieu aux États-Unis. Certains commanditaires ont cessé de financer l'équipe à cause de son nom et de son logo jugé offensant. Devant la pression, l'équipe a accepté de changer d'identité. De 2020 à 2022, faute d'avoir trouvé un nouveau nom, l'équipe était simplement désignée comme l'équipe de football de Washington. Finalement, en 2022, elle a adopté son nom actuel, les Commanders de Washington. Plusieurs autres équipes nord-américaines ont abandonné un vieux nom jugé offensant. Les Indians de Cleveland sont devenus les Guardians en 2022. Les Redmen de l'Université McGill à Montréal sont devenus les Redbirds en 2020. Les Eskimos d'Edmonton sont devenus les Elks en 2020. Il y a quelques semaines, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé vouloir faire adopter une loi pour que l'équipe de football de Washington retrouve son nom d'origine. Oui, il voudrait qu'elle s'appelle de nouveau les Redskins. Selon lui, l'équipe aurait bien plus de valeur si elle portait à nouveau son ancien nom. Il est même allé jusqu'à menacer de bloquer la construction d'un nouveau stade à Washington si ce changement n'était pas effectué. La Maison-Blanche a confirmé que le président était sérieux dans sa démarche. Cependant, de nombreuses organisations autochtones dénoncent sa volonté. Parfois, il arrive que des équipes changent de nom en raison d'un déménagement. C'est le cas des Nordiques de Québec, qui s'appellent maintenant l'Avalanche du Colorado. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter en 1995. À l'époque, l'équipe avait de gros problèmes financiers. Malgré une base de partisans très fidèles, Québec n'arrivait pas à faire autant de revenus que les grandes villes américaines et l'aréna des Nordiques, le Colisée, devenait trop vieux. Par manque de soutien du gouvernement, les propriétaires ont vendu l'équipe à un groupe américain. Les Nordiques ont donc déménagé à Denver, au Colorado, et sont devenus l'Avalanche du Colorado. Et devine quoi? L'équipe a remporté la Coupe Stanley dès sa première saison là-bas. Depuis, les partisans de la ville de Québec espèrent toujours un retour du hockey professionnel chez eux. Désir de changement. De l'impact au CF Montréal. Depuis sa création en 1992, l'équipe de soccer de Montréal, qu'on appelait l'Impact, a changé de logo plusieurs fois. En 2012, quand elle est entrée en Major League Soccer, MLS, elle a présenté un nouveau badge qui a marqué l'une des meilleures périodes de son histoire et auquel les fans sont restés très attachés. En janvier 2021, coup de théâtre. Le club annonce qu'il change non seulement de logo, mais aussi de nom. L'Impact de Montréal devient alors le Club de foot Montréal, ou CF Montréal. Les dirigeants disent vouloir renouveler l'image de l'équipe, refléter davantage la culture francophone et internationale de la ville et s'inspirer du style des grandes équipes européennes. Mais cette décision n'a pas plu à tout le monde. Beaucoup de partisans ont regretté la disparition du nom Impact. En 2022, le club a donc retouché son logo pour mieux rappeler son histoire tout en gardant le nom CF Montréal. Selon toi, est-ce que les équipes devraient avoir le droit de changer de nom? Et pourquoi? Pas si fantastique, le plastique. Un texte d'Ophélie Delaunay, paru le 21 août 2025 dans les As de l'Info. La semaine dernière, les représentants de 184 pays se sont réunis en Suisse pour trouver des moyens de réduire la pollution plastique. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Pourtant, le plastique pose de gros problèmes pour l'environnement. Il contribue même au changement climatique. Prends ta pelle en métal. On va creuser le sujet ensemble. Du plastique partout. Le plastique, c'est très pratique. On s'en sert pour fabriquer des emballages, des bouteilles, des meubles, des jouets et même des vêtements. On produit plus de 400 millions de tonnes de plastique chaque année. Mais que deviennent tous ces objets en plastique quand on ne s'en sert plus? Une petite partie est recyclée ou brûlée. Une autre partie se retrouve dans des dépotoirs. Une grosse partie se retrouve dans la nature, surtout dans les cours d'eau et les océans. Le plastique se retrouve aussi dans l'air, dans le sol, dans la nourriture, dans l'eau qu'on boit et même dans notre corps. Pourquoi? Parce qu'il se décompose en tout petits morceaux, des microplastiques qui sont si petits qu'ils se répandent partout. Il y a tellement de déchets dans les océans que le poids du plastique pourrait dépasser celui des poissons d'ici 2050. Tu as déjà entendu parler des continents de plastique? Ce sont d'énormes accumulations de déchets en plastique dans les océans. Elles se forment avec les courants marins qui entraînent les déchets et les rassemblent au même endroit. Un de ces continents, situé dans l'océan Pacifique, est 3 fois plus grand que la France. En plus d'être mauvais pour la nature, tous ces morceaux de plastique sont dangereux pour les animaux qui peuvent se blesser, les avaler, tomber malades et même mourir. Le plastique fait grimper la température. Ce n'est pas tout. Le plastique contribue au changement climatique. Pourquoi? Parce que fabriquer du plastique et gérer les déchets en plastique produit énormément de gaz à effet de serre qui réchauffent l'atmosphère. Le plastique est fabriqué à partir de pétrole et de gaz, ce qui produit beaucoup de CO2. Le plastique, qui se trouve dans les dépotoirs, produit du méthane quand il se décompose. Les déchets de plastique sont parfois brûlés, ce qui produit aussi des gaz à effet de serre. Le plastique qui pollue l'eau et les sols peut aussi empêcher les écosystèmes comme les forêts et les océans de réguler le climat. Quelle solution contre cette pollution? Une des meilleures solutions serait que tous les pays s'entendent pour diminuer la production de plastique et qu'ils prévoient des façons de le recycler correctement. Mais, comme je te l'ai dit au début, il n'y a pas encore eu d'accord satisfaisant. Par contre, il existe d'autres façons de réduire la pollution par le plastique qui sont à la portée de tout le monde. Est-ce que tu en connais? Donne-moi des exemples. Bloquer des routes pour protéger la forêt. Un texte de Clémence Tessier-Laliberté, paru le 25 août 2025 dans les As de l'Info. Depuis le début de l'été, au Québec, des militants autochtones manifestent et bloquent des routes. Pourquoi? Ils sont opposés à un projet de loi touchant les forêts. Pour comprendre leurs revendications, j'ai parlé avec Guy Paul, un Innu de Mastéouach au lac Saint-Jean. Il est le porte-parole de MAMO, le groupe autochtone qui mène ces actions. Je t'explique tout ici. À quoi s'oppose-t-il? En avril, le gouvernement de la CAQ a présenté le projet de loi 97 pour moderniser la gestion des forêts. Si ce projet de loi est adopté, il y aura plus de coupes d'arbres et une grande portion des forêts du Québec sera cédée aux industries forestières. Pour beaucoup de gens, dont des communautés autochtones, c'est une mauvaise idée. Avec son groupe MAMO, Guy Paul a décidé de passer à l'action. En plus de bloquer des routes pour signifier leur mécontentement, ils empêchent les coupes d'arbres. Comment? On va voir les gens sur le terrain. S'il y en a qui travaillent, on leur fait signe d'arrêter. On leur explique. S'ils ne veulent pas, on se met devant eux pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils partent, explique-t-il. Leur mission? Sortir les gens de la forêt. Depuis mai, ils sont parvenus à retirer 61 machineries utilisées pour abattre les arbres. Et ce n'est pas seulement des Autochtones qui participent. Des militants de toutes origines, venus d'un peu partout au Québec, se joignent à eux pour protéger la forêt. Ils ont un objectif clair. Nous, ce qu'on aimerait, c'est de faire tomber complètement le projet de loi 97. Guy Paul et son groupe espèrent pouvoir parler au gouvernement, être consultés et pris au sérieux dans les décisions concernant leur territoire. Quand on défend le territoire, on défend nos droits à tous, ajoute-t-il. Sur le terrain pour la forêt. J'ai demandé à Guy Paul pourquoi il milite si activement contre le projet 97? Si la loi entre en vigueur, nous n'aurons plus aucun droit sur nos territoires. Plus de droit de parole sur les coupes forestières, m'a-t-il dit. Tu te demandes peut-être pourquoi Guy Paul parle de leur territoire. C'est parce que ces groupes autochtones vivent depuis toujours sur des terres qu'on appelle non cédées. Ça veut dire que leurs ancêtres n'ont jamais signé de traité pour donner ou vendre ces terres au gouvernement. Ce sont des territoires ancestraux, transmis de génération en génération. Leur lutte non violente vise aussi à préserver l'environnement, à garder la forêt en vie et saine pour tous. On le fait pour les générations futures, pas seulement pour les Autochtones, mais pour tous ceux qui occupent le territoire, dit-il. Et toi, que penses-tu de leur stratégie? Est-ce une bonne façon de se faire entendre? Pas de médaille pour une équipe de soccer à cause de parents intimidateurs. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 25 août 2025 dans les As de l'Info. C'est du jamais vu. Une jeune équipe de soccer qui était sur le point de gagner la médaille de bronze lors d'un tournoi a été déclarée perdante à cause de parents. Dans les gradins, des parents criaient des insultes aux joueurs adverses et aux arbitres. Conséquence? Leurs garçons de 11 ans ont été disqualifiés et sont partis sans la médaille qu'ils méritaient. Voici ce qui s'est passé. Cette histoire est arrivée lors du défi du Très Carré de Charlebourg. C'est le plus gros tournoi de soccer de la région de Québec. Cette année, il a réuni 290 équipes de plusieurs provinces canadiennes du 27 juin au 6 juillet. Le tout a commencé le matin de la dernière journée de compétition. Des parents de joueurs se sont mis à crier des commentaires sexistes à l'arbitre, une adolescente de 15 ans. Ils ont aussi insulté les joueurs de l'équipe adverse, des garçons de 10 et 11 ans. L'arbitre en chef a averti l'entraîneur que ce genre de comportement était inacceptable. Il fallait qu'il parle aux parents et que ça arrête, sinon il y aurait des conséquences. Mais lors de la demi-finale, les parents ont recommencé à intimider l'équipe adverse. Insultes, cris, menaces. C'en était trop. Les responsables du tournoi ont décidé d'arrêter le match et de disqualifier l'équipe, même si elle menait par 5 buts et s'apprêtait à remporter la victoire. L'équipe a été déclarée perdante et est repartie sans la médaille de bronze qu'elle aurait dû obtenir. Une décision difficile. Les organisateurs ont hésité avant de prendre cette décision. Ils se sont basés sur les règlements de Soccer Québec qui disent que l'entraîneur d'un club est responsable du comportement des parents de sa formation. Comme la situation ne s'était pas améliorée malgré les avertissements clairs, l'équipe devait être punie. Des parents qui ont des commentaires déplacés et qui exagèrent un peu trop, il y en a souvent. Mais là, ça dépassait la limite de l'acceptable, a dit le responsable du tournoi, Alexandre Danty, au journal Le Soleil. Des parents toxiques qui gâchent l'esprit sportif. Ce n'est pas la première fois que les comportements de parents lors de compétitions sportives font les nouvelles cet été. Pendant les Jeux du Québec, les organisateurs ont dénoncé la présence de parents toxiques. Ces parents dépassent les limites. Ils s'emportent dans les gradins ou forcent leurs enfants à jouer même s'ils sont blessés, par exemple. Malgré des campagnes de sensibilisation auprès des parents, les entraîneurs et les arbitres remarquent que la situation continue d'empirer. À ton avis, est-ce que priver une équipe de ses médailles pour lancer un message clair aux parents, c'est une bonne idée? Ou ça punit injustement les enfants? Ont-ils à payer pour le comportement de leurs parents? Sinon, est-ce que bannir des parents des matchs serait une solution? Que penses-tu de tout ça, toi? As-tu des idées pour régler ce problème? Quand les stars vendent des biscuits. Un texte de Camille Lopez, paru le 23 août 2025 dans les As de l'Info. Tu les as peut-être vus à l'épicerie ou dans des vidéos d'influenceurs. Des biscuits Oreo signés Selena Gomez ont été lancés cet été en quantité limitée. Et dans l'équipe des As, ça a soulevé plein de questions. Qu'est-ce qui se cache derrière cette drôle de collaboration entre une chanteuse et une marque de biscuits à la crème? J'ai enquêté. Selena Gomez, c'est une vedette américaine de 33 ans. Elle est actrice, chanteuse et a sa propre entreprise de maquillage, Rare Beauty. Et en juin, son nom est apparu sur un tout nouveau produit. Des biscuits Oreo au chocolat et à la cannelle. Selon les publicités, la saveur et l'apparence des biscuits ont été pensés par Selena elle-même. Elle dit s'être inspirée de ses racines mexicaines. Ne reculant devant rien, j'ai contacté des spécialistes et j'ai même goûté à ces fameux biscuits. Voici ce que j'ai découvert. Selena n'est pas devenue pâtissière. Est-ce que Selena Gomez a développé la recette de ses biscuits dans sa cuisine? Non, explique le nutritionniste Bernard Lavallée, qui s'intéresse beaucoup à la publicité et aux mythes qui entourent les aliments. C'est son nom sur l'emballage, mais derrière la création de ses biscuits, il y a des centaines de personnes. Une stratégie pour vendre. Plusieurs marques de nourriture s'associent à des vedettes ou à des personnages connus, comme des craquelins Harry Potter ou des céréales Mickey Mouse. À quoi ça sert? C'est pour aller chercher leur public. Par exemple, les biscuits Oreo vont être achetés par des fans de Selena qui veulent goûter à ce qu'elle aime, indique Maude Sanson, conseillère chez National, une entreprise spécialisée en marketing. Plus cher pour moins de biscuits. J'ai fait le calcul. Un biscuit Oreo classique coûte environ 19 sous. Celui de Selena, 33. Il y a aussi 3 biscuits de moins dans les paquets de Selena. Oui, je les ai comptés. Biscuit loterie. Un biscuit rare, qui porte la signature de Selena, est caché dans un paquet sur 3. En trouver un débloque l'accès à une chanson exclusive de Selena. Il faut scanner le Oreo chanceux pour l'écouter. Le concours est réservé aux 13 ans et plus. C'est pensé exprès pour donner envie d'acheter plusieurs paquets. C'est une exception dans la loi. Au Québec, une loi interdit aux entreprises de faire de la publicité visant les moins de 13 ans. Un message sur l'emballage ne peut pas t'encourager à demander à tes parents d'acheter un produit. Par contre, il est permis de le décorer avec une célébrité ou un personnage populaire auprès des jeunes, ce qui peut inciter à acheter. La recette d'un succès. Selon le nutritionniste Bernard Lavallée, 2 choses nous motivent à acheter de la nourriture. La première, la nouveauté. La deuxième, c'est le contraire, l'envie de manger ce qu'on connaît. Les compagnies font donc souvent des partenariats avec des célébrités pour faire de l'argent. Pourquoi? Parce qu'un Oreo, comme celui de Selena, c'est juste assez nouveau sans être inconnu. On connaît déjà le biscuit, mais la saveur est unique. J'ai fait un énorme sacrifice et j'ai goûté au biscuit pour compléter mon enquête. Verdict. Honnêtement, ils sont assez savoureux. Mais il est difficile de passer par-dessus l'arrière-goût de publicité. Qu'est-ce que contiendrait le biscuit de tes rêves?
C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Gilbert, Eva, Mathieu et Samuel.